de la vie et de la terre.
Cours de SVT. Seconde. Thématique, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Grand A. L'organisation fonctionnelle du vivant. Chapitre 1. L'organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées. Depuis la sixième, vous avez entendu parler de cellules, puisque tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Or, la cellule est souvent définie comme étant la plus petite unité structurale du vivant. Que l'on soit unicellulaire ou pluricellulaire, il faut être capable d'assurer les différentes fonctions du vivant. Pourtant, si on est unicellulaire, toutes les fonctions du vivant sont assurées, c'est-à-dire se développer, se reproduire, réaliser son métabolisme et même évoluer. Tandis que chez les organismes pluricellulaires, chaque cellule, des tissus, assure des fonctions très spécifiques. Donc, le problème qui est soulevé par ce chapitre, c'est comment les cellules assurent-elles les différentes fonctions du vivant. Alors, dans un premier temps, nous étudierons l'unité cellulaire fonctionnelle. Dans un second temps, nous irons voir l'organisation du vivant elle-même, à différentes échelles. Et enfin, en tout dernier lieu, nous irons voir l'importance de l'information portée par l'ADN. Alors, il existe différents groupes d'êtres vivants unicellulaires. Donc, par exemple, chez les eucaryotes, il y a les protistes, les levures, et chez les procaryotes, les bactéries, qui sont très différenciés. Mais si certains ont des spécificités propres à leur groupe, ils ont tous un point commun. Chaque cellule doit assurer toutes les fonctions du vivant. Grand B, chez les êtres pluricellulaires. Lorsque plusieurs cellules sont associées pour former un organisme pluricellulaire, les cellules constituant les organes sont donc spécialisées. Par exemple, votre cerveau contient différentes cellules qu'on appelle des neurones. Ces neurones sont spécialisés dans la conduction d'un influx nerveux. Autre exemple, les cellules de vos muscles sont ultra spécialisées dans le raccourcissement. On appelle cela des myocytes. Un dernier exemple, les hématies. Les hématies sont des cellules ultra spécialisées dans le transport du dioxygène dans le sang. On les appelle encore les globules rouges. Pourtant, chaque cellule diffère d'une autre par sa taille, sa forme, sa position, sa durée de vie, la présence ou non de certains organites ou molécules. Si je reprends par exemple vos deux dernières cellules, le myocyte et l'hématie, ces deux cellules n'ont absolument pas du tout la même taille et n'ont même pas la même durée de vie. Alors essayons d'être un peu précis. Qu'est-ce que veut dire cellule ? Alors cellule, c'est la plus petite unité structurale et fonctionnelle du vivant. Donc ça, c'est la définition la plus courte que vous pouvez avoir de cellule. Organite. Qu'est-ce qu'un organite ? Alors un organite, c'est un compartiment cellulaire spécialisé dans une fonction déterminée chez les cellules eucaryotes. Par exemple, vous connaissez le noyau. Jusqu'à présent, vous avez étudié que le noyau renfermait l'information génétique. C'est un organite au sein de la cellule. Mais il existe plein d'autres organites dont certains vont être étudiés en seconde. Alors certains organites sont facilement observables avec un microscope optique, comme le noyau ou les chloroplastes des cellules chlorophylliennes. Par contre, d'autres organites nécessitent d'être observés au microscope électronique, comme la mitochondrie par exemple. Alors deux abréviations que vous devez connaître, MO pour microscope optique, et ME pour microscope électronique. Si le microscope électronique est à transmission, c'est-à-dire si j'arrive à voir à travers l'objet, dans ce cas-là, on appelle ça MET en abréviation. Et si jamais j'arrive à voir la surface de l'objet, c'est-à-dire le relief, alors dans ce cas-là, j'appelle ça un microscope électronique à balayage, MEB. Techniquement, la microscopie électronique est en noir et blanc, mais elle peut être colorisée artificiellement. Alors si vous prenez votre document 1, la cellule eucaryote et ses organites, quels sont les organites que vous avez à connaître en seconde ? Alors en seconde, vous avez à connaître vacuoles, chloroplastes, mitochondries, noyaux, et c'est tout pour les organites. Mais attention, s'ajoute à cela d'autres structures que vous devez connaître, comme par exemple la paroi végétale, la membrane plasmique, le cytoplasme. Alors revenons à la spécialisation des cellules. Cette spécialisation de cellules est à mettre en relation avec leurs fonctions. Par exemple, un neurone, un globule rouge ou une cellule chlorophyllienne. Un neurone va conduire l'information nerveuse, le globule rouge va transporter du dioxygène aux organes et la cellule chlorophyllienne va réaliser la photosynthèse grâce à son chloroplaste. On estime qu'un être humain est constitué d'environ 30 000 milliards de cellules appartenant à plus de 250 types cellulaires différents. Dans le document 2, vous avez quelques types différents qui vous sont soulignés. Toutes les cellules sont délimitées par une membrane plasmique, ne l'oubliez jamais. Ça renferme du liquide qu'on appelle le cytoplasme. D'ailleurs, en grec, cyto signifie cellule et plasme ou plasma, substance. Et tout ceci possède aussi du matériel génétique qui est protégé ou non par un noyau. Cela souligne bien l'unité du monde vivant et son origine unique. Grand 2, l'organisation du vivant. Alors grand A, les différentes échelles de ce monde vivant. Tout organisme pluricellulaire est un individu dans son espèce. On peut observer qu'il est constitué d'organes, par exemple le cœur, le foie, les poumons, représentant souvent des appareils fonctionnels ou des parties fonctionnelles. C'est-à-dire par exemple l'appareil circulatoire, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, assurant donc des grandes fonctions de l'organisme. La circulation du sang, la digestion, la respiration, etc. Chaque organe est constitué de tissus représentant les différentes parties de l'organe et assurant des fonctions particulières. Puis, chaque tissu possédera des cellules spécialisées dans ces mêmes fonctions et possédera, pour ces raisons, une richesse en organites variables dépendant de sa spécialisation. Par exemple, une cellule chlorophyllienne est vouée à photosynthétiser, donc elle possédera en son sein énormément de chloroplastes, puisque le chloroplaste est l'organite spécialisé dans la photosynthèse. Enfin, chaque cellule aura aussi une richesse particulière en molécules qui différera d'une autre cellule dont la spécialité sera différente. Par exemple, l'hématie est riche en hémoglobine, tandis qu'un hépatocyte, c'est-à-dire une cellule du foie, sera riche en glycogène. Il y a donc bien des spécificités moléculaires. Les cellules des organismes pluricellulaires sont généralement jointives et entourées d'une matrice extracellulaire qui permet l'adhérence des cellules et la cohésion des tissus. Par exemple, les cellules végétales sont toujours entourées d'une paroi cellulaire, constituée de diverses molécules, dont la cellulose et les pectines. Alors définissons ce qu'est une matrice extracellulaire. Une matrice extracellulaire, c'est un ensemble de grosses molécules présentes dans les tissus, mais situées en dehors des cellules qui les synthétisent et les sécrètent. La matrice extracellulaire facilite les liaisons et l'adhérence entre les cellules et les organismes en tissu. Donc attention quand vous parlez du vivant, puisque les échelles d'organisation de la cellule vont varier. Vous ne pouvez pas confondre un atome, une molécule et puis une cellule. Ce n'est absolument pas possible et ça montrerait que vous n'avez pas compris. Donc faites bien attention à ça. Grand B, les outils pour observer le vivant. Alors avec un microscope optique, on peut observer les tissus constituant les organes et les cellules constituant des tissus. Mais le grossissement maximal est d'environ x 1000, et encore, puisque le grossissement couramment utilisé au lycée est de x 400. Avec un microscope électronique, on peut observer plus de détails, dont les organites. Il existe, attention, deux techniques que vous devez connaître. Une qui nous permet d'aller voir à l'intérieur de la cellule. La microscopie électronique est dite à transmission, son abréviation, comme je l'ai dit auparavant, MET. Et l'autre qui permet de voir les cellules en relief, donc la surface des cellules. Et à ce moment-là, c'est la microscopie électronique à balayage, ou MEB. Comme la matière minérale, la matière du vivant est constituée de molécules, c'est-à-dire d'un assemblage d'atomes trop petits pour être observés en microscopie, c'est-à-dire de l'ordre du nanomètre. Mais attention, comme je vous le disais précédemment, surtout ne confondez pas les ordres de grandeur. C'est une faute qui coûte en général cher, puisque vous montrez ainsi, vous démontrez que vous n'avez pas compris l'ordre d'échelle finalement des éléments. Une cellule mesure entre 100 et 2 micromètres, 2 micromètres pour une bactérie par exemple. Mais une molécule est nettement plus petite, il s'agit d'un assemblage d'atomes, donc on est de l'ordre du nanomètre. Une cellule est constituée d'une multitude de molécules, et une molécule de différents atomes. Mais confondre une molécule avec une cellule, c'est un peu comme si vous confondiez Blois avec la France. Grand 3, l'importance de l'information portée par l'ADN. Alors petit rappel, l'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est la molécule porteuse de l'information génétique. C'est une molécule qui est contenue dans un noyau sous la forme de chromatine. Chromatine, c'est le terme qu'on a donné aux constituants à l'intérieur du noyau et qui portaient une certaine couleur, d'où son nom. Donc l'ADN est sous sa forme lisible quand elle est sous forme chromatine. Quand en revanche la cellule est en division, l'enveloppe nucléaire disparaît et l'ADN se condense fortement jusqu'à 30 fois pour prendre la forme de chromosomes, c'est-à-dire de petits bâtonnets d'ADN condensé. Toutes les cellules de nos organes possèdent la même information. Mais dans une cellule spécialisée d'un tissu, tous les gènes ne s'expriment pas. Et seule une partie correspondant à la spécialisation va s'exprimer. Grand A, la structure de la molécule d'ADN. Donc petit rappel, l'ADN c'est l'acide désoxyribonucléique et c'est la molécule porteuse de l'information génétique. Cette molécule est constituée de deux chaînes enroulées l'une autour de l'autre en double hélice, est qualifié pour cette raison de bicaténaire, c'est-à-dire possédant deux chaînes. On dit que c'est un polymère, c'est-à-dire une très grosse molécule, constituée d'une succession de molécules élémentaires qu'on appelle des nucléotides. Dans l'ADN, il existe quatre nucléotides possibles, qui sont l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Ces quatre molécules donc peuvent être assemblées suivant un ordre différent. Et ces nucléotides s'enchaînent les uns aux autres pour former une longue chaîne s'enroulant en hélice. La deuxième chaîne est toujours complémentaire de la première selon une règle très stricte. A s'associe avec T et G s'associe avec C. On parle de complémentarité de la chaîne d'ADN. La structure de la molécule d'ADN est universelle dans le monde vivant. Ça veut dire que cette structure est appliquée chez tous les êtres vivants. Grand B, le langage de l'ADN. Alors, une succession de nucléotides est appelée une séquence, car elle forme une succession, finalement, de lettres. Si on résume effectivement l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine à quatre lettres principales, A, C, G, T, alors dans ce cas-là, on a bien une succession de lettres. Si cette succession de lettres aboutit à une phrase cohérente qui permet la synthèse d'une protéine, on parle alors de gène. Attention, cette notion est hyper importante pour bien comprendre le fonctionnement du vivant. De même, si un gène permet la fabrication d'une protéine particulière ayant une fonction, il peut exister différentes versions de ce même gène, entraînant des modifications ponctuelles ou non de cette protéine. Ces différentes versions d'un même gène sont appelés allèles. Donc récapitulons. Qu'est-ce qu'une séquence ? C'est la succession de nucléotides les uns par rapport aux autres, formant ainsi une succession de lettres. Qu'est-ce qu'un gène ? Un gène, c'est un fragment d'ADN qui code pour la synthèse d'une protéine. À un gène, j'aurai forcément une protéine associée. Cela veut dire que, en fait, si l'ensemble de l'information génétique est résumé sous un ensemble de gènes, alors dans ce cas précis, ça veut dire qu'on est constitué d'un ensemble de protéines qui vont agir pour le vivant. Cette notion est très importante puisque, en fait, les protéines sont les outils du vivant. Alors le noyau de toute la cellule possède absolument tout l'ADN caractérisant l'organisme pluricellulaire. En revanche, cela ne veut pas dire que tous les gènes sont actifs, c'est-à-dire que tous les gènes ne sont pas exprimés. Ainsi, selon la spécialité de la cellule, seuls certains gènes utiles à la spécialisation s'expriment. En conclusion, Selon la spécialisation de la cellule, certains gènes sont actifs et d'autres sont rendus silencieux. Donc attention à cette notion de gène, elle est fondamentale et on dit bien qu'un gène, c'est un segment d'ADN qui contient l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine, c'est-à-dire à sa fabrication. Le gène est dit actif, c'est-à-dire à allumer, exprimer, lorsque cette synthèse a lieu. Sinon, il est inactif, éteint ou réprimé. Tout ceci veut dire la même chose. Mais évidemment, l'expression génétique n'est pas un processus fait de noir et de blanc. Il existe plein de niveaux de gris, avec par exemple les gènes très actifs qui sont dits surexprimés, avec une synthèse très importante par exemple, ou encore partiellement réprimés avec une synthèse très faible. Vous l'aurez compris, il existe donc des protéines qui sont hyperproduites et d'autres protéines qui sont faiblement produites et d'autres qui ne sont pas produites. Alors en conclusion, toutes les cellules d'un organisme pluricellulaire sont issues des divisions successives de la cellule œuf à l'origine de cet organisme. Elles contiennent toute l'intégralité du génome, mais en expriment qu'une partie seulement. Ainsi, pendant toute la vie, les cellules utilisent certains gènes pour produire leurs propres molécules selon leur spécialité. On dit que les gènes s'expriment. En se spécialisant, les cellules acquièrent ainsi des différences qui les distinguent. On a plus de 250 types cellulaires qui sont recensés dans l'espèce humaine et donc qui auront des spécificités d'expression de gènes derrière. Ce cours est terminé pour ce chapitre. Attention à ce chapitre car il est fondamental pour l'an prochain. Donc maîtrisez-le bien. Thank you.